La Belle aux cheveux d'or, lu par Camille pour Audiocité. Il y avait une fois la fille d'un roi qui était si belle qu'il n'y avait rien de si beau dans le monde, et à cause qu'elle était si belle, on la nommait la Belle aux cheveux d'or, car ses cheveux étaient plus fins que de l'or, et blonds par merveille, tout frisés qui lui tombaient jusque sur les pieds. Elle allait toujours couverte de ses cheveux bouclés, avec une couronne de fleurs sur la tête et des habits brodés de diamants et de perles, tant il y a qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer. Il y avait un jeune roi de ses voisins qui n'était point marié et qui était bien fait et bien riche. Quand il eut appris tout ce qu'on disait de la Belle aux cheveux d'or, bien qu'il ne l'eût point encore vue, il se prit à l'aimer si fort qu'il en perdit le boire et le manger, et il se résolut de lui envoyer un ambassadeur pour la demander en mariage. Il fit faire un magnifique carrosse à son ambassadeur, il lui donna plus de 100 chevaux et de 100 laquais, et lui recommanda bien de lui amener la princesse. Quand il eut pris congé du roi et qu'il fut parti, toute la cour ne parlait pas d'autre chose, et le roi, qui ne doutait pas que la Belle aux cheveux d'or ne consentît à ce qu'il souhaitait, lui faisait déjà faire de belles robes et des meubles admirables. Pendant que les ouvriers étaient occupés à travailler, l'ambassadeur arrivait chez la Belle aux cheveux d'or, lui fit son petit message. Mais soit qu'elle ne fût point ce jour-là de bonne humeur, ou que le compliment ne lui semblât pas à son gré, elle répondit à l'ambassadeur qu'elle remerciait le roi, et qu'elle n'avait point envie de se marier. L'ambassadeur partit de la cour de cette princesse, bien triste de ne pas la ramener avec lui. Il rapporta tous les présents qu'il lui avait apportés de la part du roi, car elle était fort sage et savait bien qu'il ne faut que les filles reçoivent rien des garçons. Ainsi, elle ne voulut jamais accepter les beaux diamants et le reste, et pour ne pas mécontenter le roi, elle prit seulement un carteron d'épingles d'Angleterre. Quand l'ambassadeur arriva sur la grande ville du roi, où il était attendu si impatiemment, chacun s'affligea de ce qu'il ramenait point la Belle aux cheveux d'or, et le roi se prit à pleurer comme un enfant. On le consolait sans en pouvoir venir à bout. Il y avait un jeune garçon à la cour qui était beau comme le soleil et le mieux fait de tout le royaume. À cause de sa bonne grâce et de son esprit, on le nommait Avenant. Tout le monde l'aimait, hors les envieux, qui étaient fâchés que le roi lui fît du bien et qu'il lui confiât tous les jours ses affaires. Avenant se trouva avec des personnes qui parlaient du retour de l'ambassadeur et qui disaient qu'il n'avait rien fait qui vaille. Il leur dit sans y prendre garde « Si le roi m'avait envoyé vers la Belle aux cheveux d'or, je suis certain qu'elle serait revenue avec moi. » Tout aussitôt, ces méchants gens vont dire au roi « Sire, vous ne savez pas ce que dit Avenant ? Que si vous l'aviez envoyé chez la Belle aux cheveux d'or, il l'aurait ramené. Considérez bien sa malice. Il prétend être plus beau que vous et qu'elle l'aurait suivi partout. » Voilà le roi qui se met en colère tant et tant qu'il était hors de lui. « Ha ha !» dit-il, « ce mignon se moque de mon malheur, il se prise plus que moi. Allons qu'on le mette dans ma grosse tour et qu'il y meure de faim. » Les gens du roi furent chez Avenant, qui ne pensait plus à ce qu'il avait dit. Ils le traînèrent en prison et lui firent 1000 maux. Ce pauvre garçon n'avait que peu de paille pour se coucher, et il serait mort sans une petite fontaine qui coulait au pied de la tour, dont il buvait un peu pour se rafraîchir, car la faim lui avait bien séché la bouche. Un jour, qu'il n'en pouvait plus, il disait en soupirant « De quoi se plaint le roi? Il n'a point de sujet qui lui soit plus fidèle que moi. Je ne l'ai jamais offensé. » Le roi, par hasard, passait proche de la tour. Et quand il entendit la voix de celui qu'il avait tant aimé, il s'arrêta pour l'écouter, malgré ceux qui étaient avec lui, qui haïssaient Avenant, et qui disaient au roi « À quoi vous amusez-vous, sire? Ne savez-vous pas que c'est un fripon ?» Le roi répondit « Laissez-moi, je veux l'écouter. » Ayant ouï ses plaintes, les larmes lui en vinrent aux yeux. Il ouvrit la porte de la tour et l'appela. Avenant vint tout triste se mettre à genoux devant lui et baisa ses pieds. « Que vous ai-je fait, sire ?» lui dit-il, « pour me traiter si durement. Tu t'es moqué de moi et de mon ambassadeur, » dit le roi. « Tu as dit que si je t'avais envoyé chez la Belle aux cheveux d'or, tu l'aurais bien amené. » « Il est vrai, sire, » répondit Avenant, « que je lui aurais si bien fait connaître vos grandes qualités que je suis persuadé qu'elle n'aurait pu s'en défendre, et en cela je n'ai rien dit qui vous dût être agréable. » Le roi trouva qu'effectivement il n'avait point de tort. Il regarda de travers ceux qui lui avaient dit du mal de son favori, et il l'emmena avec lui, se repentant bien de la peine qu'il lui avait faite. Après l'avoir fait souper à merveille, il l'appela dans son cabinet et lui dit « Avenant, j'aime toujours la Belle aux cheveux d'or, ses refus ne m'ont point rebuté, mais je ne sais comment m'y prendre pour qu'elle veuille m'épouser. J'ai envie de t'y envoyer pour voir si tu pourras réussir. » Avenant répliqua qu'il était disposé à lui obéir en toute chose et qu'il partirait dès le lendemain. « Oh !» dit le roi, « je veux te donner un grand équipage. »« Cela n'est point nécessaire, » répondit-il. « Il ne me faut qu'un bon cheval avec des lettres de votre part. » Le roi l'embrassa, car il était ravi de le voir si tôt près. Ce fut un lundi matin qu'il prit congé du roi et de ses amis pour aller à son ambassade tout seul, sans pompe et sans bruit. Il ne faisait que rêver au moyen d'engager la belle aux cheveux d'or, d'épouser le roi. Il avait un écritoire dans sa poche et quand il lui venait quelque belle idée à mettre dans sa harangue, il descendait de cheval et s'asseyait sous des arbres pour écrire afin de ne rien oublier. Un matin qu'il était parti à la pointe du jour, en passant dans une grande prairie, il lui vint une pensée fort jolie. Il mit pied à terre et se plaça contre des saules et des peupliers qui étaient plantés le long d'une petite rivière qui coulait au bord du pré. Après qu'il eut écrit, il regarda de tous côtés charmé de se trouver en un si bel endroit. Il aperçut sur l'herbe une grosse carpe dorée qui bâillait et qui n'en pouvait plus, car ayant voulu attraper des petits moucherons, elle avait sauté si haut hors de l'eau qu'elle s'était élancée sur l'herbe où elle était près de mourir. Avenant en eut pitié, et quoiqu'il fût jour maigre et qu'il eût pu l'emporter pour son dîner, il fut la prendre et la remit doucement dans la rivière. Dès que ma commère la carpe sentit la fraîcheur de l'eau, elle commença à se réjouir et se laissa couler jusqu'au fond, puis revenant toute gaillarde au bord de la rivière. « Avenant, lui dit-elle, je vous remercie du plaisir que vous venez de me faire. Sans vous, je serais morte, et vous m'avez sauvée, je vous le revaudrai. » Après ce petit compliment, elle s'enfonça dans l'eau et Avenant demeura bien surpris de l'esprit et de la grande civilité de la carpe. Un autre jour qu'il continuait son voyage, il vit un corbeau bien embarrassé. Ce pauvre oiseau était poursuivi par un gros aigle gros mangeur de corbeaux. Il était prêt de l'attraper et il l'aurait avalé comme une lentille si Avenant n'eût eu compassion du malheur de cet oiseau. « Voilà, dit-il, comment les plus forts oppriment les plus faibles. Quelle raison a l'aigle de manger le corbeau ? Il prend son arc, qu'il portait toujours, et une flèche, puis mirant bien l'aigle, crac, il lui décoche la flèche dans le corps et le perce de part en part. Il tombe mort et le corbeau ravi vint se percher sur un arbre. « Avenant, lui dit-il, vous êtes bien généreux de m'avoir secouru, moi qui ne suis qu'un misérable corbeau, mais je n'en demeurerai point ingrat, je vous le revaudrai. » Avenant admira le bon esprit du corbeau et continua son chemin. En entrant dans un grand bois, si matin qu'il ne voyait qu'à peine à se conduire, il entendit un hibou qui criait en hibou désespéré. « Mouais, dit-il, voilà un hibou bien affligé. Il pourrait s'être laissé prendre dans quelques filets. » Il chercha de tous côtés et enfin il trouva de grands filets que des oiseleurs avaient tendus la nuit pour rattraper des oisillons. « Quelle pitié, dit-il, les hommes ne sont faits que pour s'entre-tourmenter et pour persécuter de pauvres animaux qui ne leur font ni tort ni dommage. » Il tira son couteau et coupa les cordelettes. Le hibou prit les sorts, mais revenant à tire-d'aile. « Avenant, dit-il, il n'est pas nécessaire que je vous fasse une longue harangue pour vous faire comprendre l'obligation que je vous ai. Elle parle assez d'elle-même. Les chasseurs allaient venir, j'étais pris, j'étais mort sans votre secours. J'ai le cœur reconnaissant, je vous le revaudrai. » Voilà les trois plus considérables aventures qui arrivèrent à Avenant dans son voyage. Il était si pressé d'arriver qu'il ne tarda pas à se rendre au palais de la Belle aux Cheveux d'Or. Tout y était admirable. L'on y voyait des diamants entassés comme des pierres. Les beaux habits, les bonbons, l'argent, c'étaient les choses merveilleuses. Il y pensait en lui-même que si elle quittait tout cela pour venir chez le roi son maître, il faudrait qu'il jouât bien de bonne heure. Il prit un habit de brocart, des plumes incarnates et blanches, il se peigna, se poudra, se lava le visage, il mit une riche écharpe toute brodée à son cou, avec un petit panier, et dedans un beau petit chien qu'il avait acheté en passant à Boulogne. Avenant était si bien fait, si aimable, il faisait toutes choses avec tant de grâce que lorsqu'il se présenta à la porte du palais, tous les gardes lui firent une grande révérence. Et l'on courut dire à la Belle aux Cheveux d'Or qu'Avenant, ambassadeur du roi son plus proche voisin, demandait à la voir. Sur ce nom d'Avenant, la princesse dit « Cela me porte bonne signification, je gagerai qu'il est joli et qu'il plaît à tout le monde. » « Vraiment oui, madame, lui dirent toutes ses filles d'honneur. Nous l'avons vu du grenier où nous accommodions votre filasse, et tant qu'il a demeuré sous les fenêtres, nous n'avons pu rien faire. » « Voilà qui est beau, répliqua la Belle aux Cheveux d'Or, de vous amuser à regarder les garçons. Ça que l'on me donne ma grande robe de satin bleu brodée, et que l'on éparpille bien mes blonds cheveux, que l'on me fasse des guirlandes de fleurs nouvelles, que l'on me donne mes souliers hauts et mon éventail, que l'on me balaye ma chambre et mon trône, car je veux qu'ils disent partout que je suis vraiment la Belle aux Cheveux d'Or. » voilà toutes les femmes qui s'empressent de la parer comme une reine. Elles étaient si hâtées qu'elles s'entrecognaient et n'avançaient guère. Enfin, la princesse passa dans sa galerie au grand miroir pour voir si rien ne lui manquait. Et puis elle monta sur son trône d'or, d'ivoire et d'ébène, qui sentait comme baume, et elle commanda à ses filles de prendre des instruments et de chanter tout doucement pour n'étourdir personne. L'on conduisit Avenant dans la salle d'audience. Il demeura si transporté d'admiration qu'il a dit depuis, bien des fois, qu'il ne pouvait presque parler. Néanmoins, il prit courage et fit sa harangue à merveille. Il pria la princesse qu'il n'eût pas le déplaisir de s'en retourner sans elle. « Gentil Avenant, lui dit-elle, toutes les raisons que vous venez de me conter sont fort bonnes, et je vous assure que je serais bien aise de vous favoriser plus qu'un autre. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a un mois que je fus me promener sur la rivière avec toutes mes dames, et comme l'on me servit la collation, en ôtant mon gant, je tirai de mon doigt une bague qui tomba par malheur dans la rivière. Je la chérissais plus que mon royaume. Je vous laisse à juger de quelle affliction cette perte fut suivie. J'ai fait serment de n'écouter jamais une proposition de mariage que l'ambassadeur qui me proposa un époux qui ne me rapporte ma bague. Voyez à présent ce que vous avez à faire là-dessus. Car vous me parleriez 15 jours et 15 nuits, vous ne me persuaderiez pas de changer de sentiment. » Avenant demeura bien étonné de cette réponse. Il fit une profonde révérence et la pria de recevoir le petit chien, le panier et l'écharpe. Mais elle lui répliqua qu'elle ne voulait point de présent et qu'il songea à ce qu'elle venait de lui dire. Quand il fut retourné chez lui, il se coucha sans souper et son petit chien, qui s'appelait Cabriole, ne voulut pas souper non plus. Il vint se mettre auprès de lui. Tant que la nuit fut longue, Avenant ne cessa de soupirer. « Où puis-je prendre une bague tombée depuis un mois dans une grande rivière ? » disait-il. « C'est toute folie de l'entreprendre. La princesse ne m'a dit cela que pour me mettre dans l'impossibilité de lui obéir. » Il soupirait, il s'affligeait très fort. Cabriole, qui l'écoutait, lui dit « Mon cher maître, je vous prie, ne désespérez point de votre bonne fortune. Vous êtes trop aimable pour n'être pas heureux. Allons, dès qu'il fera jour au bord de la rivière. » Avenant lui donna deux petits coups de la main et ne répondit rien, mais tout accablé de tristesse, il s'endormit. Cabriole, voyant le jour, cabriola, tant qu'il l'éveilla et lui dit « Mon maître, habillez-vous et sortons !» Avenant le voulut bien. Il se lève, s'habille et descend dans le jardin, et du jardin il va insensiblement au bord de la rivière, où il se promenait son chapeau sur ses yeux et ses bras croisés l'un sur l'autre, ne pensant qu'à son départ, quand tout à coup il entendit qu'on l'appelait. « Avenant, Avenant !» Il regarde de tous côtés et ne voit personne, il croit rêver. Il continue sa promenade. On l'appelle. « Avenant, Avenant !»« Qui m'appelle ?» dit-il. Cabriole, qui était fort petit et qui regardait de près dans l'eau, lui répliqua « Ne me croyez jamais si ce n'est qu'une carpe dorée que j'aperçois. » Aussitôt la grosse carpe parut et lui dit « Vous m'avez sauvé la vie dans le pré des Alisiers, où je serais resté sans vous. Je vous promis de vous le revaloir. » « Tenez, cher Avenant, voici la bague de la belle aux cheveux d'or. » Il se baissa et la prit dans la gueule de ma commère la carpe, qu'il remercia 1000 fois. Au lieu de retourner chez lui, il fut droit au palais avec le petit Cabriole, qui était bien aise d'avoir fait venir son maître au bord de l'eau. L'on alla dire à la princesse qu'il demandait à la voir. « Hélas, dit-elle, ce pauvre garçon, il vient prendre congé de moi, il a considéré que ce que je veux est impossible, et il va le dire à son maître. » L'on fit entrer Avenant qui lui présenta sa bague et lui dit « Madame la princesse, voici votre commandement fait. Vous plaît-il recevoir le roi, mon maître, pour époux ?» Quand elle vit sa bague, où il ne manquait rien, elle resta si étonnée qu'elle croyait rêver. « Vraiment, dit-elle, gracieux Avenant, il faut que vous soyez favorisé de quelque fée, car naturellement cela n'est pas possible. « Madame, dit-il, je n'en connais aucune, mais j'avais bien envie de vous obéir. » « Puisque vous avez si bonne volonté, continua-t-elle, il faut que vous me rendiez un autre service, sans lequel je ne me marierai jamais. Il y a un prince qui n'est pas éloigné d'ici, appelé Galifron, lequel s'était mis dans l'esprit de m'épouser. Il me fit déclarer son dessein avec des menaces épouvantables que si je le refusais, il désolerait mon royaume. Mais jugez si je pouvais l'accepter. C'est un géant qui est plus haut qu'une tour. Il mange un homme comme un singe mange un marron. Quand il va à la campagne, il porte dans ses poches de petits canons, dont il se sert au lieu de pistolets. Et lorsqu'il parle bien haut, ceux qui sont près de lui deviennent sourds. Je lui mandai que je ne voulais point me marier, et qu'il m'excusa. Cependant, il n'a point laissé de me persécuter. Il tue tous mes sujets, et avant toute chose, il faut vous battre contre lui et m'apporter sa tête. » Avenant demeura un peu étourdi de cette proposition. Il rêva quelque peu, et puis il dit « Eh bien, madame, je combattrai Galifron. Je crois que je serai vaincu, mais je mourrai en brave homme. » La princesse resta bien étonnée. Elle lui dit mille choses pour l'empêcher de faire cette entreprise. Cela ne servit de rien. Il se retira pour aller chercher des armes et tout ce qu'il lui fallait. Quand il eut ce qu'il voulait, il remit le petit cabriole dans son panier. Il monta sur son beau cheval et fut dans le pays de Galifron. Il demandait de ses nouvelles à ceux qui l'encontraient, et chacun lui disait que c'était un vrai démon, dont on osait approcher. Plus il entendait dire cela, plus il avait peur. Cabriole le rassurait et lui disait « Mon cher maître, pendant que vous vous battrez, j'irai lui mordre les jambes. Il baissera la tête pour me chasser, et vous le tuerez. » Avenant admirait l'esprit du petit chien, mais il savait assez que son secours ne suffisait pas. Enfin, il arriva proche du château de Galifron. Tous les chemins étaient couverts d'os et de carcasses d'hommes qu'il avait mangés ou mis en pièces. Il ne l'attendit pas longtemps qu'il le vit venir à travers un bois, sa tête passer les plus grands arbres, et il chantait d'une voix épouvantable. « Où sont les petits enfants que je croque à belles dents? Il m'en faut tant et tant et tant, que le monde n'est suffisant. » Aussitôt, Avenant se mit à chanter sur le même air. « Approche, voici Avenant qui t'arrachera les dents. Bien qu'il ne soit pas des plus grands, pour te battre il est suffisant. » Les rimes n'étaient pas régulières, mais il fit la chanson fort vite, et c'est même un miracle comme il ne la fit pas plus mal, car il avait horriblement peur. Quand Galifron entendit ces paroles, il regarda de tous côtés, et il aperçut Avenant l'épée à la main, qui lui dit deux ou trois injures pour l'irriter. Il n'en fallut pas tant. Il se mit dans une colère effroyable, et prenant une massue toute de fer, il aurait assommé d'un premier coup le gentil Avenant, sans qu'un corbeau vînt se mettre sur le haut de sa tête. Et avec son bec, il lui donna si juste dans les yeux qu'il les creva. Le sang coulait sur son visage. Il était comme un désespéré, frappant de tous côtés. Avenant l'évitait et lui portait de grands coups d'épée qui l'enfonçaient jusqu'à la garde, et qui lui faisaient mille blessures, par où il perdait tant de sang qu'il tomba. Aussitôt, Avenant lui coupa la tête bien ravi d'avoir été si heureux, et le corbeau qui s'était perché sur un arbre lui dit « Je n'ai pas oublié le service que vous me rendîtes en tuant l'aigle qui me poursuivait. Je vous promis de m'en acquitter. Je crois l'avoir fait aujourd'hui. »« C'est moi qui vous dois tout, monsieur du corbeau, » répliqua Avenant. « Je demeure votre serviteur. » Il monta aussitôt à cheval, chargé de l'épouvantable tête de Galifron. Quand il arriva dans la ville, tout le monde le suivait et criait « Voici le brave Avenant qui vient de tuer le monstre !» De sorte que la princesse qui entendit du bruit et qui tremblait qu'on ne lui vînt apprendre la mort d'Avenant, n'osait demander ce qui lui était arrivé. Mais elle vit entrer Avenant avec la tête du géant qui ne laissait pas de lui faire encore peur, bien qu'il n'eût plus rien à craindre. « Madame, lui dit-il, votre ennemi est mort, j'espère que vous ne refuserez point le roi. » Il l'épousa avec tant de réjouissance que l'on ne parlait d'autre chose.